6. Tanya Robinson appelle sur le portable de sa fille pour la quatrième fois en 20 minutes. Et pour la quatrième fois, elle tombe sur le répondeur enjoué de Barbara.
Oublie mes autres messages, dit Tanya après le bip. Je suis toujours en colère, mais je suis surtout morte d'inquiétude, là. Rappelle-moi, j'ai besoin de savoir si tout va bien.
Elle laisse tomber son téléphone sur son bureau et se met à faire les 100 pas dans son petit espace de travail. Elle hésite à téléphoner à son mari et décide que non, pas encore. Il est capable de devenir furax à l'idée de Barbara séchant les cours. Et c'est exactement ce qu'il supposera. Tanya elle-même a supposé la même chose lorsque Madame Rossi, la conseillère d'éducation de Chapel Ridge, a appelé pour savoir si Barbara était malade. Barbara n'a jamais séché les cours avant. Mais il y a une première fois à tout, surtout chez les ados. Sauf qu'elle n'aurait jamais séché toute seule. Et après une plus longue conversation avec Madame Rossi, il a été confirmé à Tanya que toutes les proches amies de Barbe sont en cours aujourd'hui. Depuis, elle imagine le pire. Et une image en particulier ne cesse de la hanter. Le message que la police diffuse au-dessus du périphérique de la ville en cas d'alerte enlèvement. Sur ce message, elle voit « Barbara Robinson » clignoter comme sur une enseigne de cinéma infernale. Les premières notes de l'hymne à la joie ont à peine le temps de retentir que Tanya se précipite sur son portable en pensant « Seigneur, Dieu merci, elle sera punie jusqu'à la fin de l'hiver. » Seulement ce n'est pas le visage souriant de sa fille qui apparaît sur l'écran. C'est l'intitulé « Police municipale commissariat central ». La terreur la prend aux entrailles et ses intestins se retournent. L'espace d'un instant, elle est incapable de répondre, car son pouce est comme paralysé. Puis elle réussit enfin à appuyer sur la petite touche verte et à faire taire la musique. Autour d'elle, tout lui paraît trop lumineux, surtout la photo de famille posée sur son bureau. Le portable semble flotter jusqu'à son oreille.
« Allô ?»
Elle écoute.
« Oui, c'est moi. »
Elle écoute encore. Sa main libre s'élevant pour venir couvrir sa bouche et étouffer le son qui essaie d'en sortir. Elle s'entend demander
« Vous êtes sûr que c'est ma fille, Barbara Rosalyn Robinson ?»
Le policier lui dit que oui. Il en est certain. Ils ont retrouvé ses papiers d'identité sur la chaussée. Ce qu'il ne lui dit pas, c'est qu'ils ont dû essuyer le sang sur la carte pour pouvoir lire le nom.
11. Hodges sait qu'il y a quelque chose qui cloche dès qu'il pose le pied hors de la passerelle reliant les bâtiments principaux du Kinner Memorial à la clinique des traumatisés du cerveau de la région des Grands Lacs, où les murs sont d'un rose apaisant et où de la musique douce résonne jour et nuit. L'ordre habituel a été troublé et très peu de gens semblent réellement travailler. Des chariots à repas sont abandonnés dans les couloirs, chargés d'assiettes remplies de magma vermiculaire en train de coaguler, qui devait être l'idée qu'on se faisait en cuisine de nouilles chinoises. Infirmiers et infirmières parlent à voix basse par petits groupes. L'une semble pleurer. Deux internes, têtes rapprochées, se tiennent près de la fontaine à eau. Un aide-soignant parle dans son téléphone portable, ce qui représente théoriquement un motif de mise à pied. Mais Hodges pense qu'il ne craint rien. Personne ne lui prête la moindre attention. Au moins, il ne voit Ruth Scapelli nulle part, ce qui pourrait améliorer ses chances d'entrer voir Hartsfield. C'est Norma Villemer qui est au bureau d'accueil. Et tout comme Becky Elmington, Norma était sa source d'informations concernant Brady avant que Hodges ne cesse ses visites à la chambre 217. La mauvaise nouvelle, c'est que le médecin de Hartsfield est aussi à l'accueil. Hodges n'a jamais réussi à établir de bonnes relations avec lui, et Dieu sait qu'il a pourtant essayé. Il flâne jusqu'à la fontaine à eau, espérant que Babineau ne l'a pas repéré et qu'il s'en aille bientôt étudier des scans 3D ou autres, laissant Villemer seul et accessible. Il se penche pour boire, grimaçant et plaquant une main sur ses côtes en se redressant, puis adresse la parole aux internes. « Il s'est passé quelque chose ? Tout le monde a l'air un peu sur les nerfs. » Ils échangent un regard hésitant.
« On n'a pas le droit d'en parler ?»
dit interne numéro 1. Il porte encore les vestiges de son acné juvénile et fait dans les 17 ans. Hodges frissonne
à l'idée de ce gamin assistant un chirurgien dans une opération plus compliquée qu'enlever une écharde d'un pouce.
C'est en rapport avec un patient ? Hartsfield, peut-être ? Si je demande ça, c'est parce que j'étais inspecteur dans la police avant, et que je suis plus ou moins responsable de sa présence ici.
Hodges, dit interne numéro 2, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
C'est vous qui l'avez arrêté, n'est-ce pas ?
Hodges acquiesce, mais la vérité, c'est que s'il avait été aux commandes, Brady aurait fait un bien plus gros carton à l'auditorium Mingo qu'il n'en avait fait au City Center. Non, c'était Holly et Jérôme qui l'avaient stoppé avant qu'il puisse faire péter sa charge diabolique d'explosifs maison. Les internes échangent encore un regard, puis numéro 1 dit
« Hartsfield n'a pas bougé, toujours aussi comateux. Non, c'est Miss Ratched. »
Interne numéro 2 lui balance un coup de coude.
« On dit pas du mal des morts, du con. Surtout quand tu sais pas si le type qu'écoute saura tenir sa langue ou pas. »
Aussitôt, passant l'ongle du pouce en travers de sa bouche, Hodges fait mine de sceller ses lèvres dangereuses. Interne numéro 1 paraît troublé.
« Je veux dire, l'infirmière chef Scapelli. Elle s'est suicidée hier soir. »
Dans la tête de Hodges, toutes les lumières s'allument en même temps. Et pour la première fois depuis hier, il a oublié qu'il va probablement bientôt mourir.
« Vous en êtes sûr ?»«
Elle s'est tailladée les bras et les poignets, » répond interne numéro 2. « Enfin, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. »
« Est-ce qu'elle a laissé un mot ?»
Ils n'en ont aucune idée. Hodges se dirige vers l'accueil. Babineau est toujours là, feuilletant des dossiers avec Villemer, qui paraît perturbé par son apparente promotion sur le champ de bataille. Mais il ne peut pas attendre. C'est l'œuvre de Hartsfield. Il ne sait pas comment c'est possible, mais ça pue Brady à plein nez, cet enfoiré de prince du suicide. Il est sur le point d'appeler l'infirmière Villemer par son prénom lorsque son instinct le retient.
« Infirmière Villemer, je me présente, Bill Hodges. »
Elle sait parfaitement qui il est.
« J'ai travaillé sur l'affaire du City Center et l'incident de l'auditorium Mingo. J'ai besoin de voir M. Hartsfield. »
Elle ouvre la bouche pour lui répondre, mais Babineau la devance.
« Hors de question. Même si M. Hartsfield était autorisé à recevoir de la visite, ce qu'il n'est pas, par ordre du procureur de district, il ne serait en aucun cas autorisé à vous voir. » Il a besoin de calme et de tranquillité. Chacune de vos précédentes visites non autorisées a bouleversé cet équilibre.
« Ah tiens, c'est nouveau, » dit Hodges d'un ton détaché. « À chaque fois que je suis venu le voir, il bougeait pas de son fauteuil, aussi inconsistant qu'un bol de porridge. »
La tête de Norma Villemer fait des va-et-vient de l'un à l'autre. On dirait une femme qui regarde un match de tennis.
« Vous ne voyez pas ce que nous voyons lorsque vous partez. »
Sous sa barbe de 3 jours, les joues de Babineau s'empourprent. Il a aussi de gros cernes noires sous les yeux. Hodges se souvient d'une illustration dans son cahier d'exercice de catéchisme. Vivre avec Jésus, au temps préhistorique où les voitures avaient des ailettes et où les filles portaient des soquettes. Le toubib de Brady a la même tête que le personnage du dessin, mais Hodges doute que ce soit un masturbateur chronique. D'un autre côté, il se rappelle Becky, lui disant que les neurologues sont souvent plus timbrés que leurs patients.
« Et que voyez-vous donc ?» demande Hodges. « Des crises de colère mentale ? Est-ce que les objets ont tendance à tomber tout seuls une fois que je suis parti ? La chasse d'eau des toilettes se tire toute seule, peut-être ?
Ridicule. Ce que vous causez, ce sont des dégâts psychiques, monsieur Hodges. Il n'est pas catatonique au point de ne pas se rendre compte que vous faites une fixation sur lui. Une fixation malsaine. Je vous demande de partir. Nous venons de connaître une tragédie. » Et nombre de nos patients sont affectés.
Hodges voit les yeux de Vilma s'arrondir légèrement, et il sait que les patients du bocal, encore doués de facultés cognitives, ils sont très peu nombreux, ne savent même pas que l'infirmière-chef a mis fin à ses jours.
J'ai juste quelques questions à lui poser. Ensuite, je vous laisse tranquille.
Babineau se penche à le toucher. Ses yeux derrière la monture en or de ses lunettes sont injectés de sang.
« Écoutez-moi bien, Monsieur Hodges. Premièrement, Monsieur Hartsfield n'est pas capable de répondre à vos questions. Si c'était le cas, il aurait déjà été traduit en justice pour ses crimes à l'heure qu'il est. Deuxièmement, vous n'avez aucun statut officiel. Troisièmement, si vous ne quittez pas les lieux immédiatement, j'appelle la sécurité. »
Hodges demande. « Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais Vous vous sentez bien ?
Babino s'écarte brusquement, comme si Hodges venait de lui brandir son poing au visage.
« Sortez d'ici !»
Le silence se fait au sein des petits attroupements d'infirmiers, et tout le monde se retourne.
« Pigé, » dit Hodges. « Je file, pas de problème. »
Il y a un coin snack à l'entrée de la passerelle. Interne numéro 2 est appuyé contre un mur, les mains dans les poches.
« Pauvre petit, » dit-il. « Vous avez reçu la fessée ?»«
On dirait bien. »
Hodges étudie la marchandise dans le distributeur à friandises. Il ne voit rien là-dedans qui ne lui incendiera pas les boyaux, et ça ne fait rien. Il n'a pas faim.
« Jeune homme, » dit-il sans se retourner, « si ça vous dit de vous faire $50 pour une petite course anodine, venez voir. »
Interne numéro 2, un gars qui pourrait bien atteindre l'âge adulte dans un futur proche, le rejoint au distributeur.
« Quel genre de course ?»
Hodges garde toujours son carnet dans sa poche arrière, comme du temps où il était inspecteur de première classe. Il griffonne deux mots. « Appelez-moi » sur une page et ajoute son numéro de téléphone.
« Donnez ça à Norma Villemer quand le smog là-bas aura pris son envol. »
Interne numéro 2 prend le mot et le plie dans la poche de poitrine de sa blouse. Puis il attend son dû. Hodges sort son portefeuille. $50, c'est beaucoup pour livrer un message. Mais être atteint d'un cancer en phase terminale a au moins un avantage. On peut balancer son argent par les fenêtres.